Ce matin, on prend soin de nos cœurs, non pas des cœurs brisés, mais des cœurs malades avec la fondation Réagir à cœur.
Une fondation qui a de nombreux objectifs, dont celui de sauver des vies.
Et aussi de former les étudiants et les professionnels impliqués dans les premiers secours. Pour en parler, nous recevons ce matin Denis Eschmann et Christophe Bellet, fondateurs de Réagir à. Bonjour.
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 Alors messieurs, pour quelles raisons est-ce que vous avez créé cette fondation? Est-ce que ça a été déjà facile de le faire dans la région?
Alors, pourquoi on a créé cette fondation? C'est parce que, avec Christophe Bellet, depuis 2008, on avait créé l'association Réagura, où on donnait des cours de premier secours et de réanimation. Et puis, depuis un moment, on voyait nos voisins latins, le Tessin, avec la fondation Ticino Cuore, et puis Fribourg, qui emboîtait le pas avec la fondation Fribourg-Cœur. Et on s'est dit, on ne va pas être le dernier petit pousset, allons-y, on va créer cette fondation.
Et puis justement, est-ce que vous avez eu des difficultés à la créer dans la région ou ça a coulé de source?
Je dirais que créer une fondation, c'est jamais évident. Déjà, il faut des moyens financiers. Ça a été encore relativement facile puisqu'on avait quelques réserves avec l'association. Donc on a pu créer cette fondation avec les moyens de la fondation, les moyens de l'association. Après, ça prend du temps. Et puis comme on est tous les deux employés à 100%, donc il faut dégager du temps et c'est pas évident.
Votre association, votre fondation, elle a plusieurs buts. Quel genre de projet?
Eh bien, des projets, il y en a plusieurs. On est actuellement sur des projets de formation. Réagir à cœur est d'abord un centre de formation au départ. On a formé plusieurs centaines de personnes. On forme plusieurs centaines de personnes par année. Nos objectifs et nos buts sont variés dans le centre de formation. La formation des élèves, la formation des enfants dans les écoles, des enseignants, former maintenant ces enfants pour l'avenir. Et puis, on a l'objectif aussi de former nos partenaires Feu Bleu, les policiers, c'est en cours. Il y a quelques corps de police qui se forment. On forme aussi tous les aspirants pompiers du canton du Jura. Et puis, on est en train de discuter maintenant aussi avec le service des douanes pour former ces partenaires Feu Bleu qui, prioritairement, peuvent aussi rouler, peuvent aussi intervenir plus rapidement que d'autres. Un autre projet important est celui de la coordination. Former des gens, installer des défibrillateurs. S'il n'y a pas une coordination qui suit derrière, on a une certaine difficulté à intervenir auprès du patient.
Est-ce qu'on forme de la même façon des élèves qui sont à l'école, évidemment, que des aspirants pompiers, que les partenaires des premiers secours? Enfin, la formation, elle doit être adaptée à chacun de ces publics différents?
Effectivement, oui. La formation a le même objectif, en fait. Le but est exactement le même. Ce qui va changer, c'est la taxonomie, c'est la discussion, c'est comment on amène les choses à ces personnes. C'est clair qu'on n'explique pas les mêmes choses à un enfant de 8 ans qu'à un pompier de 18, 20 ans ou un policier qui en a 45.
À partir de 8 ans, on peut déjà apprendre les gestes qui peuvent sauver?
Alors oui, tout à fait. À partir de 4 ans, on peut déjà emmener certains aspects de formation, ne serait-ce que de se situer dans l'espace, de pouvoir composer le 144 avec un téléphone, d'appeler au secours. Ça, c'est déjà des gestes qui sont du premier secours. Et puis, à partir de 6 ans, emmener gentiment les gestes de réanimation, le massage cardiaque. Bien sûr, il manquera forcément la force pour être efficace. Par contre, les gestes seront appris et ça deviendra des réflexes.
Et justement, est-ce que, selon vous, ces formations, elles devraient être obligatoires dans les entreprises ou bien même dans les écoles? Est-ce que ça devrait être quelque chose qui se fait d'office?
Alors je dirais que dans les entreprises, elles le sont plus ou moins, puisqu'il y a des recommandations par rapport aux normes sur la loi sur le travail et les normes du SECO. Par contre, dans les écoles, c'est un de nos projets aussi majeurs, c'est de pouvoir pérenniser ça et pourquoi pas rendre obligatoire. On a l'éducation sexuelle, il y a la prévention routière avec la police, etc. Pourquoi pas amener quelques heures, une fois tous les 2 ans, de premier secours?
Est-ce qu'il y a des chiffres ou des preuves que des personnes ont succombé à un malaise cardiaque parce que justement elles n'étaient pas entourées des personnes qui connaissaient les gestes?
Oui, effectivement, bien sûr qu'on a, des preuves. On a surtout des preuves à l'inverse que ça fonctionne lorsque les gens sont formés, lorsque les défibrillateurs éventuellement sont à disposition. Ce sont des choses qui sont documentées. Chaque professionnel qui interviendra en ambulance sur une réanimation doit documenter si le début de la réanimation a été fait par des non-professionnels, si des gestes ont été engagés ou pas. Donc oui, on sait clairement, et la chaîne de survie, qui est donc le moyen explicatif un petit peu de mesurer tout ça, a des lacunes. On sait clairement que ce sont les premières minutes qui comptent, qu'un intervenant, si possible, vienne dans les 5 minutes auprès de la victime. Et à ce moment-là, on sait qu'on peut faire fonctionner cette chaîne de survie. Tous ces éléments peuvent s'imbriquer l'un dans l'autre. À partir du moment où une personne fait un malaise, où l'alarme est donnée, ça c'est le cas, tout le temps, eh bien c'est après, dans les premiers gestes, dans la défibrillation, dans l'attente de l'ambulance, que là on peut améliorer et où on se rend compte que là il y a des lacunes encore actuellement.
Le Tessin est relativement riche de ça, de cette expérience de plus de 10 ans, puisque le taux de survie moyen national est entre 6 à 8% hein, dans le cas d'arrêt cardiaque. Le Tessin est passé rapidement à 17%, jusqu'à 34%, et en 2016, jusqu'à 50% dans certains cas bien particuliers.
Ah ouais, c'est vraiment un beau progrès.
Des chiffres qui sont éloquents.
On s'intéresse donc ce matin à la Fondation Réagir à cœur. On va plonger dans le vif du sujet dans quelques petites minutes avec les bons gestes à adopter en cas de malaise cardiaque.
Jamais 203. Format A3.
Notre cœur peut parfois nous jouer de mauvais tours, un malaise, un accident cardiaque. Ça peut survenir à n'importe quel moment.
Si une personne de notre entourage en est victime, on ne sait pas forcément comment intervenir, surtout pour le pronostic vital est souvent engagé.
Alors on va faire un point sur les gestes qui sauvent avec nos deux invités, Denis Eschmann et Christophe Bellet. Ce sont les deux fondateurs de la Fondation Réagir à cœur. Alors messieurs, quels sont les signes? Premièrement, les signes qui indiquent qu'une personne est en train de faire un malaise cardiaque. Comment est-ce qu'on peut reconnaître ça chez une personne?
Alors, je dirais il y a le malaise cardiaque de type infarctus ou l'arrêt cardiaque qu'il faut des fois distinguer. C'est des fois pas évident. L'infarctus peut amener à l'arrêt cardiaque, mais une personne en arrêt cardiaque est relativement facilement reconnaissable. C'est une personne qui est inconsciente, donc quand on lui parle, elle ne réagit pas. Quand on la stimule douloureusement, j'ai envie de dire entre guillemets, mais quand on va la secouer légèrement au niveau des épaules, elle ne va pas avoir de réaction. À ce moment-là, la personne est inconsciente. Ça, c'est le premier signe de l'arrêt cardiaque. Le deuxième signe, c'est l'absence de respiration ou une respiration qui ne serait pas normale.
Il y a des signes avant-coureurs. Est-ce qu'on peut intervenir avant que la personne soit en arrêt cardiaque?
Bien, comme l'a dit Denis, si on est face à quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque subi, non, il y a en général pas ou peu de signes. Maintenant, il est clair que si c'est un infarctus, il faut faire attention au tout premier signe d'un infarctus, toute douleur dans la poitrine, référent dans le bras par exemple, dans la mâchoire, entre les omoplates, pour une raison totalement inopinée, sont des premiers signes auxquels il faut faire extrêmement attention.
Et quels sont les premiers gestes qu'on doit faire si on voit justement une personne s'effondrer?
Alors la première chose à faire, c'est d'alarmer, alarmer les secours, demander de l'aide si on est seul. Composer le 144 au plus vite. Le 144 va bien sûr engager des moyens. Vous donner aussi des indications sur les gestes à adopter. Si par exemple vous avez suivi un cours mais que vous ne savez plus comment réagir avec le stress ou l'adrénaline, ils vont vous guider. Donc la première chose, c'est alarmer. La deuxième chose, c'est masser. Commencer rapidement le massage cardiaque, la réanimation. Et troisième chose, défibriller. Alarmer, masser, défibriller.
Alors, défibriller, donc pour faire ça, il faut un défibrillateur. Oui, si on n'en a pas.
Si on n'en a pas, on fait le principal. On masse, on appuie rapidement et fortement sur le thorax. On reproduit les mouvements du cœur depuis l'extérieur, c'est-à-dire qu'on effectue le massage cardiaque, qui est la prime chose à faire et l'essentiel.
Ça veut dire que dans les cours que vous allez proposer avec la Fondation, on va un peu plus loin que ce qu'on va apprendre lors des cours de premier secours quand on fait son permis de conduire, par exemple? Alors, ça va être plus spécifique, hein, ou c'est des piqûres de rappel?
La vocation n'est pas la même. Le cours pour le permis de conduire, c'est vraiment de donner un aperçu des premiers secours en général, alors que nous, au niveau de la Fondation, on va vraiment appuyer sur le sujet réanimation cardio-pulmonaire, défibrillation, c'est-à-dire performer dans le massage cardiaque, avoir une réanimation cardio-pulmonaire de haute qualité, et puis l'utilisation du défibrillateur.
Et vous parlez sur votre site internet, on a vu que vous parliez d'un premier répondant. Alors c'est quoi un premier répondant dans le cas de malaise cardiaque et de votre fondation ?
Alors dans le cadre de notre fondation, c'est-à-dire ce que nous essayons de reproduire en partenariat avec la fondation du Tessin et la fondation de Fribourg, un premier répondant c'est une personne qui est au bénéfice du titre du certificat de premier secours, c'est-à-dire de réanimation cardio-pulmonaire de base. C'est une personne qui aura appris à effectuer les premiers gestes de secours, vérifier que la personne est consciente, vérifier qu'elle respire ou qu'elle ne respire pas, effectuer le massage cardiaque, défibriller. Ça, ce sont les éléments qui amènent au certificat de premier secours. Un premier répondant, c'est tout un chacun. Tout un chacun ayant ce titre, ce certificat, peut, lorsque l'application que nous mettons en place actuellement sera effective, s'inscrire sur l'application et être alarmé en cas d'arrêt cardiaque.
Et cette application, elle consiste en quoi ?
Eh bien, cette application consiste à coordonner justement tous ces moyens. Ça veut dire que pour l'accès à la victime, pour qu'un accès soit rapide à la victime, en fait, l'application va déterminer, va donner une alarme. Pour autant qu'on ait appelé 144, va donner une alarme, va avertir les gens qui sont inscrits sur cette application, donc au bénéfice d'un titre, et va indiquer le défibrillateur le plus proche qui sera cartographié. Tout cela en collaboration avec le 144 Fribourg, actuellement, et permettra de coordonner en fait les premiers secours dans une mesure extrêmement rapide.
La priorité pour vous, c'est quoi ? C'est qu'un maximum de gens soient formés à ces gestes et sachent utiliser, par exemple, un défibrillateur, ou alors que les défibrillateurs se multiplient et qu'on en trouve dans toutes les entreprises, dans tous les lieux publics. C'est quoi la priorité ?
La priorité, c'est les deux. C'est difficile. C'est une réponse facile, une réponse de Normand un petit peu. Mais je dirais que si on n'a pas de personnes formées, il n'y a personne qui va intervenir. Donc avoir un défibrillateur seul ne sert à rien. Parce que si on n'est pas formé à l'utilisation du défibrillateur, et je crois que vous avez fait le test, vous allez mettre du temps avant de pouvoir délivrer un choc électrique. Alors que la chose primordiale, c'est d'alarmer, débuter la réanimation et utiliser le défibrillateur. Le défibrillateur, quand il arrive sur place, il doit être mis en place en moins d'une minute. Donc, il faut être formé à son utilisation.